Les balades, c'est super, ça ouvre l'appétit, ça favorise aussi la digestion, dit-on, et donc ça tombe plutôt bien car Malo, notre reporter à Radio Évasion, nous emmène se promener du côté du château de Trévarez pour nous faire profiter d'une randonnée autour de la fameuse bâtisse de Saint-Goizec.
Parmi les Pierris ou Andromède, vous apercevez l'un des portails d'honneur. Donc il y avait surtout deux entrées principales, donc celle-ci au sud et puis une autre au nord, en fonction d'où l'on venait. Donc là c'est la route de Sker et là-bas c'est la route de Châteauneuf. À chaque fois il y a une maison de garde à côté de ce portail. Aujourd'hui la maison de garde est à l'extérieur, c'est un particulier qui a racheté cette maison. Donc on pouvait entrer par l'un de ces portails. Et ensuite, on découvrait progressivement le château. Donc il y avait une vraie mise en scène pour magnifier en fait le monument. Donc là, on ne le voit pas encore justement. Vous allez voir, il y a tout un circuit via une allée particulière, un jeu avec la végétation. Mais c'était également la même chose au niveau de l'autre entrée au sud. Donc ici, c'est un des chantiers relativement récent, en fait, ça fait 20-15 ans, en fait, une quinzaine d'années, qu'on a remis en lecture, en fait, cette allée historique. Donc la majorité de nos visiteurs, bien sûr, empruntent l'allée bitumée, alors que vous ne connaissez pas encore, mais vous allez redescendre par celle-ci. C'est le chemin vraiment direct écurie-château. Et on avait à cœur aussi de faire emprunter des sentiers et historiques, mais aussi qui ont un intérêt botanique. Donc on a remis en lecture cette allée en refaisant notamment le macadam d'origine, enfin en grattant la terre qui s'était accumulée et donc en mettant à jour ce macadam d'origine, donc un agrégat de pierre et légèrement bombé donc pour permettre l'écoulement des eaux de part et d'autre. Et on a aussi retrouvé les strates végétales de part et d'autre de l'allée qui mettent aussi en scène physiquement en fait les invités qui se présentent. Donc il y a quatre strates végétales, n'est-ce pas? Ça commence par les buissons en contrebas. Je regarde Géraldine qui connaît bien ce strate végétal.
On avait d'abord, à peu près toutes les allées d'honneur avaient le même aménagement. Il y avait d'abord une strate arbustive. Généralement, c'était des azalées qui étaient plantées, des azalées persistantes. Ensuite, il y avait une strate
semi-arbustive.
Voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Et donc là, il y avait souvent, c'était des rhododendrons et des camélias. Un peu en alternance, ça pouvait être aussi d'autres plantes, des plantes de terre de bruyère, exotiques, on est toujours quand même sur cet exotisme. Ensuite, il y avait des arbres exotiques, toujours tulipiers, marronniers, etc. Et enfin, c'était la forêt de chênes et de hêtres. Donc vous voyez comment ça s'étageait en fait, pour accompagner les invités qui circulent en voiture généralement ou à cheval sur le domaine, et tout au long de leur circuit qui les amenait jusqu'au château. Où tout était théâtralisé de façon à les impressionner fortement.
Voilà. Alors on a encore des plants aussi centenaires. Géraldine en reparlera de nos collections botaniques. En ce moment, c'est la pleine floraison des rhododendrons que vous voyez ici. Et on a développé ces collections-là, mais on a bien sûr des plants centenaires. Donc là, c'est le cas de ce rhododendron broutonnier. Voilà. Oui, c'est un peu particulier, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de sa croissance, certaines branches se couchent.
Oui, ça marcotte.
Ça marcotte, un peu comme un fraisier.
Oui,
la réitération. On en reparlera, mais ça peut se ressemer, le camélia, le rhododendron. Il y a plusieurs modes de reproduction, mais notamment la
marcottage.
Donc on va emprunter cette allée centenaire. Vous allez voir justement des plants centenaires, des camélias, des rhodos, des pierris aussi, ou andromèdes. Donc là, elles sont encore en fleurs et puis ça sent plutôt bon en fonction de la chaleur et du soleil. Vous verrez des plants bien plus récents et plus petits.
On a la chance, l'éclairage.
Donc vous imaginez que la végétation était un peu plus dense sur la fin de l'allée et que d'un seul coup, il y avait ce château qui émergeait dans le paysage. Donc on est vraiment sur de la théâtralisation, on met vraiment en scène la découverte du lieu. Depuis ce point de vue, percé dans la végétation, on magnifie le château, mais aussi on a un point de vue sur tout le paysage environnant. On a presque l'impression d'être dans un tableau en fait. Donc il y a ce jeu en fait de point de vue depuis le parc vers le château, mais il faut imaginer que depuis le château aussi, on met en valeur ce parc. Et là, c'est ce qu'on est en train de restaurer, justement, c'est ce point de vue depuis le château vers cette partie-ci du domaine, notamment en replantant certaines espèces exotiques certaines qui avaient été abattues ou bien pour redensifier la végétation. Donc il y a notamment des espèces exotiques, des mélèzes, un araucaria là-bas, et puis d'autres bosquets colorés avec des feuillus cette fois, mais avec un feuillage particulier, pourpre ou certains érables, etc. Il y a aussi des magnolias d'été, donc avec des feuillages persistants, notamment juste ici et puis là. Donc là, c'est l'une des fenêtres végétales, et lorsque l'on poursuit le parcours, on a deux autres fenêtres. Donc à chaque fois, on met en valeur un aspect du château. Donc là, on scénarise, si vous voulez, la venue, et on découvre le château dans son ensemble. Et tout à l'heure, on aura des points de vue moins frontaux, on va dire, plutôt sur le côté, pour mettre en valeur soit les appartements du propriétaire, soit les appartements de réception. Puisqu'en fait, ce château, il a été bâti non pas comme une demeure principale, mais c'est vraiment un lieu de villégiature. Donc un lieu de chasse, mais aussi un lieu de réception pour se promener dans les allées. Tous les espaces au rez-de-chaussée sont des lieux destinés à l'accueil des invités. Et ensuite, au premier et au second étage, vous avez les chambres des invités. Sous les toits, ce sont les domestiques, puis un garde-meuble. Et puis la partie qui se détache légèrement, il y a pas une symétrie, mais il y a un ensemble plus ou moins homogène sur la partie gauche et la partie droite. Là, on est chez les propriétaires. Donc James de Kergégu qui avait ses appartements au rez-de-chaussée, puis sa fille au-dessus. Ce château, en fait, il a une vie relativement courte. Enfin, on va dire les réceptions ne vont pas se donner très très longtemps. Donc, comme je vous ai dit, James de Kergégu va décéder en 1908. Il va donner en héritage le domaine et le château à sa fille Françoise, qui elle va le faire vivre en donnant des réceptions avec son époux Henri de La Ferronnais. Mais ponctuellement, ils ne vivent pas ici encore une fois à l'année. Ensuite, le château va être occupé par les Allemands, notamment des sous-mariniers, des officiers en fait en repos ici. Il y a également des Japonais qui vont venir ici occuper les lieux. Et le château va être bombardé en juillet 44. Alors là, j'ai pas de visuel, mais en allant dans le château, dans la partie qui justement a été bombardée, vous avez une vidéo qui montre ce bombardement. En fait, la Royal Air Force filmait ou photographiait les attaques aériennes. Vous avez cela expliqué dans le château. Donc en fait, c'est toute la partie ouest qui va être éventrée. Il y aura un large trou dans la toiture. Il va falloir attendre 50 ans avant qu'on ne refasse la toiture et la charpente. Pour autant, on ne va pas restaurer complètement l'intérieur. Donc vous verrez que c'est un peu particulier. C'est une coque vide en fait. Les autres espaces du château ne sont pas tous ouverts au public. Ils ont été fortement dégradés, soit par une période de relatif abandon, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, Françoise viendra très ponctuellement sur les lieux. Il y aura un régisseur quand même qui organisera la vie du site. Elle viendra très ponctuellement et puis elle va décéder en 58 sans héritier direct. Elle va léguer le lieu à ses neveux, les deux Ganais, qui n'ont pas forcément d'attachement particulier pour le lieu. Et puis c'est aussi un certain coût en fait de restaurer ce patrimoine, ce parc, mais aussi le bâtiment. Du coup, en 68, ils vont le proposer au rachat au département. Donc aujourd'hui, c'est une propriété du département du Finistère. Le lieu va être ouvert en 71 au public. On va commencer par restaurer en partie le parc et progressivement les bâtiments, notamment le rez-de-chaussée, une partie du rez-de-chaussée du château dans les années 80, les écuries également. Il y aura tout un programme d'animation, d'exposition, etc. Et puis, plus récemment, dans l'histoire de Trévarez, le domaine de Trévarez va intégrer un établissement public de coopération culturelle qui s'appelle Chemin du patrimoine en Finistère. C'est un regroupement de 5 sites patrimoniaux, un peu partout dans le Finistère, avec des services mutualisés pour la communication, etc. Et on développe un programme d'animation culturelle, d'exposition, et puis bien sûr de mise en valeur du patrimoine, comme aujourd'hui avec avec cette visite, mais aussi les chantiers que je vous évoque. Voilà.
C'était Lise Castello, médiatrice au château de Trévarez, qui nous offrait une visite historique, sportive et atypique du jardin remarquable de 85 hectares de l'édifice. Chaque visite rando mène vers des points de vue méconnus du parc et des curiosités en plein air. Et la prochaine visite, c'est le vendredi 19 mai à 14h30 et on va tâter de la binette, écouter des cors de chasse et parler de trousseaux de clés en faisant le tour des communs sur les traces du personnel du service du château.